Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est au milieu du US Open, ce sera notre traditionnel épisode bilan de mi-tournoi. Mais tout d'abord, je veux saluer mes collègues Hugues Léger. Comment te portes-tu à la suite de cette cinglante défaite à l'Omnium sur la ligne hier au Parc Jarry, là?
Ben, 52-49 quand même, c'est pas si cinglant que ça, mais oui, c'est une défaite qui est quand même dure à avaler ce matin. J'ai beaucoup pensé à ça durant le brunch de la fête du travail. D'ailleurs, je félicite l'équipe des Blancs, composée de Nico Bergeron, Isabelle Étier et Abraham Santerre, qui ont remporté cette année la fameuse Coupe Bear Paws que je montre ici à l'écran pour ceux qui nous voient en vidéo. Nouvelle tradition, deuxième édition cette année, beaucoup de plaisir sur le cours central au Stade IGA. Un petit souper d'équipe après, donc c'était une belle journée hier dimanche.
Ouais, on est allé manger au Trebbiano sur la rue Saint-Charles à Longueuil, pour ne pas le nommer. Et moi, j'ai fait équipe avec Hugues dans les couleurs foncées hier, en compagnie de ta femme, Nathalie, d'ailleurs, qui joue bien. Alors, non, je dois dire que j'étais carrément le maillon faible de cette équipe-là, on va se le dire.
Mais t'as fait le coup du match quand même.
J'ai fait le coup du tournoi, on va aussi. Nico, tu as manqué ça hier, mais dos au filet, je me suis fait lober et j'étais dos au filet, j'ai renvoyé la balle de dos et j'ai fait le coup du tournoi. Par contre, le coup qui est revenu par la suite est probablement le pire coup du tournoi. Alors, dans le même échange, j'ai fait le meilleur et le pire coup du tournoi. Mais je préfère conserver les idées et les souvenirs positifs.
Le Alcaraz de l'équipe ou le Nick Kyrgios, du meilleur et du pire.
Le plus Nick Kyrgios, parce que mon service par en dessous était à point, disons-le. Nico, comment te portes-tu? On s'est ennuyé de toi hier, mon cher ami.
Ah oui, hein, mais j'ai vu les images défiler sur nos différents réseaux sociaux. Ça avait l'air franchement très, très chouette. Malheureusement, j'ai dû m'absenter pour le travail. Mais donc, heureux de savoir qu'Abraham a finalement pris sa revanche sur ce qui s'est passé l'année dernière. Mais les démons derrière lui avancent. Je suis heureux de savoir que ça s'est bien passé pour vous.
On voit qu'Abraham se sent très à l'aise sur le central pour une raison que j'ai de la difficulté à m'expliquer encore. Mais il a vraiment très bien joué hier, Abraham. Donc, chapeau.
Il faut dire qu'il a chassé des balles dans sa vie, alors ouais. Il est habitué aux grands moments, là, le cher Abraham Santerre. Salutations également à Nicolas Bergeron, là, qui a fait tout un travail aussi pour chasser des balles. Oh, là, vous...
La préparation du service cuillère d'Alexandre, c'était une beauté.
Et là, si vous nous écoutez en audio, c'est que Hugues vient de montrer la photo à Nicolas Richard de moi, dans toute ma grâce, en train de m'apprêter à servir à la Nick Kyrgios, je veux dire, comme ça. Ça a été belle fun, honnêtement. On en profite toujours pour faire un point sur où on en est avec le podcast, avec toute l'équipe, parce que, bon, vous entendez souvent Hugues, moi et Nico, mais il y a quelques personnes derrière nous qu'on nomme assez régulièrement là, et qui nous aident à tous les jours. Et puis, on était bien content d'avoir Isabelle Étier aussi, que vous entendez avec nous assez régulièrement aussi. Je veux pas perdre trop de temps sur l'Omnium Banque Nationale et la Coupe Patte d'Ours, d'ailleurs, Nicolas, qui est nommé en ton honneur la Coupe Patte d'Ours, parce que tu aimes beaucoup parier les Pattes d'Ours.
Étant spécial, je suis super spécial la semaine passée et les gars, je ne me suis pas privé.
Ben, Hugues disait que la Coupe était d'une valeur totale de 7$. Alors,
incluant les Bear Paws.
Pas banal, honnêtement.
En tout cas, Nico, on n'a rien envié au trophée de Cincinnati, je le confirme. Non, c'est la même
chose. Pareil.
Hein? Il est plus beau, moi, je trouve. Bon.
Il est plus délicieux.
Il est effectivement plus délicieux. Et sincèrement, si je les mets un à côté de l'autre, honnêtement, je sais très bien pour lequel je vote et ça se peut que ce ne soit pas celui des grands champions ont eu dans les mains. Je vote pour le trophée Patte d'Ours, la coupe Patte d'Ours. Bon, parlons de tennis puisque c'est notre mandat, mais de vrai tennis avec des vrais joueurs de tennis. Commençons avec les performances canadiennes. On dirait qu'on pourrait faire un copier-coller presque à chaque émission parce que les tournois se suivent et se ressemblent malheureusement, Félix Auger-Aliassime, c'est une autre défaite au premier tour contre Mackenzie McDonald. Un autre match quand même accroché, un long 4-7, mais c'est quand même une autre défaite au premier tour. Hugues, je ne sais pas si tu veux ajouter à ça? Je ne sais pas s'il y a à ajouter. Ou
oui, ben, on en a beaucoup parlé cette semaine. Il y a eu des sorties médiatiques, notamment celle de Fred Neymeyer, dont on va parler un petit peu. Moi, je vais surtout faire un commentaire groupé, parce qu'on peut déjà faire un premier bilan de fin de saison. Évidemment, quand le quatrième Grand Chelem est terminé et que tous les Canadiens et Canadiennes sont exclus du tableau au premier tour, ben, ça a soulevé quelques questions. Effectivement, c'est pas une bonne saison. On sort de plusieurs années de grâce, hein, avec une victoire en Grand Chelem, US Open 2019 pour Bianca, des demi-finales pour Félix, une finale pour Léla au US Open. Et tu sais, quand j'en parlais avec Louis Borfiga avant son départ pour la France, il me dit, tu sais, Hugues, c'est quand même une génération dorée, celle de Félix et de Chapovalov. Est-ce qu'on va pouvoir répliquer cette réussite dans les prochaines années? C'est une question qui est soulevée en ce moment. Il faut un petit peu en parler. Mais globalement, premier bilan 2023, oui, ça va être une saison décevante. Peu importe ce qui va advenir là, d'ici la fin de l'année. On sait qu'il y a la Coupe Davis encore, il y a la Coupe Billie Jean King, il y a la Coupe Laver, mais qui est plus un tournoi. Je dirais presque marketing, là, ça a moins d'enjeux au niveau de la réussite, mais les classements ont baissé pour tout le monde cette année. Globalement, là, il faut peut-être commencer par ce point-là. Mais moi, je n'ai pas trop d'inquiétude que Félix va rebondir, que Léla va continuer sur sa remontée quand même. Parce qu'oublions pas qu'elle est passée du 88e rang au tournoi de Montréal, autour de la 55e place en ce moment. Oui, c'est décevant pour elle. Elle n'a pas réussi à enchaîner des victoires clairement cette année. Et le flash contre Béatrice Adadmaya à Montréal, ben, ça aurait été que ça, un flash en fait sur sa saison. Heureusement qu'elle a eu ce match-là quand même pour amener un peu de positif. Bianca encore embêtée par des blessures, Chapeau embêté par des blessures. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion finale, je dirais, sur Chapeau et sur Bianca. Mais 2023, après une année qui s'est terminée par une Coupe Davis en 2022, forcément, ça soulève quelques questions. Mais le programme de développement continue de travailler et de fournir des bons joueurs. Oublions pas Vicky, Victoria Mboko, qui a eu beaucoup de succès professionnels déjà à l'âge de 16 ans. Elle a 2 victoires en Challenger déjà, et plusieurs bons joueurs du côté féminin. Un peu plus de défis du côté masculin, mais je ne pense pas qu'on peut dire que le bateau coule en ce moment, qui est le commentaire qu'on a entendu durant la semaine. Mais il y a du travail à faire au niveau du développement, c'est certain, pour poursuivre sur ces résultats exceptionnels qu'on a eus. Mais moi, j'ai aucun doute qu'on va redresser la barre et qu'il y aura des beaux résultats en 2024.
On a certainement le talent pour le faire, ça c'est sûr. Nico, commentaire sur cette défaite encore une fois au premier tour, très tôt dans le tournoi. La bonne nouvelle dans le cas de Félix, c'est peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de points à défendre au US Open. Là, il n'avait pas connu une performance incroyable l'année passée. Je pense que c'était un deuxième tour. Commentaire sur cette défaite-là?
Mais il en aura beaucoup à défendre, Alex, au cours de l'automne. Là, je calcule, c'est presque 1500 points. Et dans le pire scénario où il pourrait être éliminé dès le premier tour, à chacun des tournois, il a bien fait l'automne passé. Félix pourrait glisser jusqu'à la 70e place du classement mondial, ce qui était inattendu en début de saison. Et cette glissade-là, pour moi, elle s'est vécue en plusieurs phases. C'est-à-dire au début de la saison, quand ça allait un peu moins bien, c'était surprenant. Parce que comme Hugues l'a dit, on revenait d'une super finale à la Coupe Davis. Félix revenait d'un super automne. Donc, pour moi, cette phase-là était surprenante. Ensuite, pendant l'été, c'était décevant parce qu'on se disait, mon Dieu, c'est dommage que Félix n'ait pas pu capitaliser sur peut-être ce qu'il a fait la saison passée. À un certain point, c'était normal peut-être en début de saison avec la fatigue. Mais en milieu d'année, cet été, c'était un peu décevant. Mais là, contre McKenzie à New York, les gars, c'était triste. Je regardais le match de Félix sans ressources. Il était à bout de motivation. J'ai l'impression qu'il était fatigué, qu'il était tanné, qu'il était découragé. Évidemment, il s'est battu jusqu'à la fin, mais quand même, on voyait à quel point ça pesait lourd sur ses épaules. Ouais. Plus le dernier set avançait, plus de se dire « Oh non, je suis encore en train de l'échapper.
Ouais. »
Sa marche à la fin du match entre son banc et la sortie, pour moi, elle était pénible. Elle était triste à regarder aller parce que Félix se disait à ce moment-là, puis évidemment, je ne lui ai pas parlé depuis, mais je suis convaincu qu'il se disait « Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux médias? Comment je vais pouvoir expliquer cette autre défaite-là? » Parce qu'ultimement, perdre au premier tour, c'est une chose, mais perdre dans tous les grands chelems, perdre dans les derniers tournois qu'il a fait, ultimement, les gars, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va mal. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez ajouter. Félix est pris dans cette spirale-là de trouver des raisons, de trouver peut-être des excuses pour expliquer ce qui se passe. Malheureusement, il n'y a pas mille façons de le trouver. Félix n'a aucun rythme. Félix est en perte de confiance. Et c'est juste dommage. C'est juste triste.
Hugues, tu voulais acheter quelque chose?
Oui. Bon, c'est trois défaites au premier tour en grand chelem depuis l'Australie, où il avait fait un beau quatrième tour quand même. Moi, je pense que au-delà, je pense que c'est bien que ça s'arrête maintenant et que Félix prenne un petit break. On sait qu'il s'est retiré de la Coupe Davis qui commencera à Bologne deux jours après l'US Open.
Mais il devrait jouer la Coupe Laver, par contre.
Oui, exactement. Il y a moins de pression à la Coupe Laver. Bien que ça va être à Vancouver, il y a moins d'enjeux. Par contre, il doit prendre la mesure dans les prochaines semaines de l'écart qu'il a avec les Alcaraz, Sinner, Rooney, qui a perdu tôt aussi. On pourra en parler un petit peu plus tard. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir de la part de Félix, c'est est-ce qu'il pourra revenir à un jeu beaucoup plus créatif, beaucoup plus audacieux, parce qu'il n'y aura pas le choix s'il veut revenir top 15, top 10, parce que le tennis, il se joue comme ça en ce moment. Alcaraz donne le rythme. Il n'y a plus de points neutres. Et Félix joue beaucoup de points neutres. Il va être en échange avec sa très belle technique, mais il joue comme un robot un peu. Je trouve qu'il y a très peu d'imagination au niveau de son jeu et c'est pas suffisant pour rester dans le top 20, top 15. Moi, c'est surtout ça que j'ai hâte de voir de la part de Félix. Puis espérons qu'il prendra du temps pour réfléchir à tout ça et comment il peut revenir avec un jeu plus inventif, je vais le dire comme ça. Et je pense qu'il devrait peut-être réévaluer aussi la composition de son équipe de coach, qui lui donne les clés au niveau mental pour l'aider à se sortir de cette situation-là. J'ai soulevé sur BPM plus tôt la semaine dernière la relation avec Tony Nadal. N'oubliez pas que Nadal avait été engagé pour l'aider à gagner son premier Grand Chelem. L'objectif, c'était ça, parce que Nadal, évidemment, il le sait, hein, c'est lui qui a amené Raphaël au plus haut sommet, mais force est d'admettre que cette association-là n'a pas fonctionné entre Tony Nadal et Félix, parce que non seulement il n'a pas gagné de Grand Chelem, mais il a reculé sur tous les plans là, au niveau de ses performances en Grand Chelem en 2023.
Mais le point sur le jeu, Hugues, il est intéressant, parce que j'ai l'impression, puis je fais un parallèle qui est peut-être boiteux, mais je vais le faire quand même. Pour ceux qui jouent au golf, vous le savez, parfois, lorsqu'on réfléchit trop à l'élan, à notre positionnement, les pieds, le genou, le torse, monter les bras, descendre, garder la tête, il y a tellement de questions en si peu de temps que c'est difficile d'être naturel. Puis on le sait, Félix a un des plus beaux jeux sur le circuit. C'est à la fois robotique, mais j'ai envie de dire dans le bon sens, parce que c'est une machine. Il a tellement joué de tennis, il a tellement appris des meilleurs que Félix a un des plus beaux jeux naturels sur le circuit. Et j'ai l'impression, depuis cette glissade, qu'il se cherche énormément, tandis qu'il devrait faire confiance à son instinct, à ce qu'il a appris au cours des dernières années. Et notamment dans ce match-là contre McKenzie et McDonald, j'ai trouvé qu'il était très, très mécanique, alors qu'il devrait être plutôt naturel. Et je pense que cette pause dont vous faisiez mention, messieurs, va peut-être l'aider à retrouver ses assises, retrouver ses bases et jouer comme le Félix qu'il doit être et qu'il est toujours, j'ai envie de dire.
La Coupe Laver, elle est dans deux semaines ou à peu près. Alors, le fait qu'il ne s'est pas rendu trop loin dans le tournoi, ça va lui donner presque trois semaines de repos. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites blessures à soigner? Peut-être, on verra. Est-ce qu'il est en forme? Les athlètes nous donnent que très rarement la vérité sur ça. On verra. J'ai l'impression que ça va lui faire du bien. Et comme tu disais, Nico, il devra retrouver du rythme parce que il aura énormément de points à défendre. Et bien franchement, ce serait surprenant qu'il en défende la majorité d'ici la fin de l'année, surtout à la lumière de ce qu'on a vu depuis Indian Wells, là, depuis le mois de mars, là, où c'est beaucoup plus compliqué pour Félix Auger-Aliassime. Bon, il n'y a pas que lui qui a eu des problèmes. En fait, c'est une première depuis 2015 qu'il n'y a aucun Canadien en Grand Chelem dans un deuxième tour du tournoi du Grand Chelem. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on n'a pas vu ça d'ailleurs au US Open. Alors, c'est dommage parce que c'était comme une espèce de progression là, systématique du tennis canadien. Et pour la première fois en longtemps, on sent qu'il y a une espèce de recul. Est-ce que c'est sporadique? Est-ce que c'est conjoncturel? La réponse à ça, elle est probablement oui. Mais il reste qu'on est en droit de s'attendre avec le talent qu'on a. Et ce que les joueurs nous ont montré, c'est d'au moins dépasser le premier tour de façon générale. Bon, ça a été le cas de Milos Raonic. Lui, par contre, on n'avait pas trop d'attentes dans son cas. Il affrontait Stefanos Tsitsipas, mais en même temps, la façon dont il avait joué à Toronto, on pouvait se dire, rendu là, avec son gros service, peut-être qu'il peut s'en sortir, Nico. Mais en même temps, je pense que tu n'étais pas surpris de voir Tsitsipas passer aisément à Milos.
Ben, comment je dirais ça? Aisément, non, parce que je pensais que Miloš allait quand même donner une meilleure opposition compte tenu de ce qu'on a su par la suite vis-à-vis de Tsitsipas. C'est-à-dire que cette saison, il est incapable de remporter des matchs importants. Oui, il gagne des matchs, mais souvent contre des adversaires soit diminués, soit vraiment moins bien classés. Mais lorsque ça demeure, mais lorsque ça devient, c'est-à-dire plus important, plus serré, Tsitsipas s'effondre. Donc, je pensais que Raonic allait peut-être pu creuser cette faille-là du côté de Tsitsipas. Malheureusement, bon, notre Canadien s'est incliné. Mais je ne veux pas non plus changer le plan de match, les gars, de la conversation, mais je me pose énormément de questions sur Stefanos Tsitsipas, son entourage, sa préparation, ce qu'il fait à l'extérieur du terrain aussi. On sait que son idylle avec Badosa, puis je ne veux pas faire de potin ou...
Moi, je pense que tu es juste jaloux.
Ou aussi, dévier la conversation, mais ça reste qu'il se passe beaucoup de choses dans l'entourage de Tsitsipas et ultimement, sur le terrain, ce n'est pas une bonne saison pour Tsitsipas. Loin de là. Il est toujours top 10, mais je pense que dans sa courbe de progression, cette saison-ci, à l'âge où il est rendu, elle était déterminante, elle était névralgique. Et malheureusement pour lui, c'est une saison oubliée, les gars.
Ben, tu sais, on peut. C'est intéressant ce que tu dis parce que d'une certaine manière, ça peut relativiser certaines autres performances. On parle beaucoup de Félix, mais il y a un nom auquel on l'a comparé assez régulièrement cette année, celui de Casper Ruud. Et encore une fois, Casper Ruud, lui, a perdu rapidement dans ce tournoi-là. Et moi, je l'avais fait perdre trop dans mes tableaux de prédictions. Alors, c'est peut-être simplement un message pour dire. Quand on regarde les classements, là, c'est plus compliqué que ça peut en avoir l'air. Et parce que, bon, quand tu veux être top 10 mondial, ben, tu devrais gagner plus souvent qu'autrement. Mais regardez, bon, Stefanos Tsitsipas qui part au deuxième tour contre Stricker, on en reparlera un peu plus tard parce qu'il connaît, il a été une espèce d'histoire cendrillon dans ce tournoi-là, même si maintenant son tournoi est terminé. Mais Casper Ruud, ben, c'est la même chose. Il a perdu au deuxième tour et ça lui a tout pris pour passer le premier tour, Casper Ruud. Alors, c'est pas si simple que ça d'être top 10 mondial et d'y rester et de battre des joueurs du top 100. Je pense que le top 100 est beaucoup plus près que ce qu'on peut penser de façon générale. Ouais.
Alex, juste pour terminer sur Miloš, effectivement, défaite en 3-7. Pour moi, ça va lui... il a une idée plus claire d'où il se situe, je pense. Là. Après une belle performance sur gazon, après une victoire contre Tiafoe à Toronto, qui laissait espérer certaines choses intéressantes, je pense que le fait qu'il ne se soit pas approché, malgré son excellent service, dans aucun des 3-7 de Tsitsipas, et que Tsitsipas se fasse sortir au prochain tour, je pense que Miloš va réfléchir à la suite cet automne. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait des annonces d'ici la fin de l'année sur Miloš. On sait qu'il n'a pas envie de voyager en plus. Là, donc, c'est une défaite qui est quand même assez significative. Moi, je m'attendais à ce qu'il ferait un match plus serré. Ça n'a pas été un match serré. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, les gars, donc il y a déjà des changements importants au niveau du coaching pour les joueurs top 10 dont on a parlé. Je vais rajouter Holger Rune dans le mix qui se sépare donc de Patrick Mouratoglou. Apparemment, un conflit avec la maman d'Holger Rune. On sait qu'elle est ultra présente. Donc, on parlait d'un ego clash. Hein, un clash des égos et des personnalités. Tsitsipas qui se défait de Philippe Poussis, son coach, qui venait tout juste de signer. Donc, il retourne avec son père. Donc, présence d'une mère du côté de Holger Rune, du père du côté de Stefanos Tsitsipas. Il se passe des choses. Et Ruud qui perd aussi au premier tour, je rajoute aussi là-dessus. Il y a quand même eu des défaites étonnantes là, des joueurs du top 10 à US Open cette année.
Bienvenue en Grand Chelem, les gars.
Ouais.
Non, tu dis avec un sourire, mais c'est vrai quand même.
Oui,
c'est pour rien qu'on accorde autant de prestige.
Bienvenue au Grand Chelem américain. On parlera du succès des joueurs américains et des joueuses américaines cette année. C'est quand même exceptionnel.
et du succès des odeurs qui auront parcouru les terrains de Flushing Meadows. On pourra peut-être en reparler si on a un peu de temps. Oui. Bon, dans le cas de Leila Annie Fernandez, messieurs... Bon, c'est un peu la même histoire, elle aussi, qui se répète. Elle avait un adversaire compliqué, cela dit, en Alexandrova au premier tour. Là, c'est quand même une joueuse qui est quand même bien classée, 20e mondiale. C'est une fille qui s'est quand même rendue jusqu'à Vondrousova là, au troisième tour. Commentaire, Nico, sur Leila. Est-ce que c'est ce à quoi on devait s'attendre dans le contexte?
Oui, parce que le classement puis la saison de Leila, mais quand même, je pensais qu'en deuxième manche, elle aurait pu avoir ce match-là. J'étais très optimiste de la façon dont ça se déroulait. C'était un match qui était très classique, Leila, là, c'est-à-dire beaucoup de fautes directes, beaucoup d'instabilité, mais quand même des moments qui sont très, très forts aussi. Donc, c'est en montagne russe. Et je pensais vraiment qu'à la fin de cette deuxième manche-là, Leila allait pouvoir prendre et profiter de ce momentum. Or, ça n'a pas été le cas, mais c'est tout de même plus encourageant que ce à quoi je m'attendais dans le cas de Leila. Tu l'as dit, que je jouais contre une très bonne joueuse, là, Alexandrova, 22e tête de série. Oui, c'est une défaite, mais je suis convaincu que la manière dont elle s'est comportée lui a donné des ailes pour le double avec sa partenaire Towson, atteindre les quarts de finale. Ça reste un tournoi de double, puis je suis convaincu que Leila vise d'abord et avant tout les titres en simple. Mais c'est un tournoi, somme toute, positif, j'ai envie de dire, pour Leilani Fernandez jusqu'à présent à New York.
Intéressant. Hugues?
Oui, je la voyais moi aussi se rendre jusqu'à Vondrousova, mais bon, c'était peut-être un peu du wishful thinking, mais elle a fait un bon match quand même, Leila. Là, c'était un match serré. Je pensais qu'elle retrouverait ses bonnes sensations du US Open. Évidemment, c'est là qu'elle a eu sa plus grande performance en carrière en 2021 avec la finale. Elle n'est pas loin, Leila. Et encore une fois, il y a des changements aussi dans son entourage de coaching. Ça semble être une tendance là, cet automne au US Open. C'est Jorge, son père, qui va reprendre vraiment la pôle au niveau du coaching à partir de maintenant. J'ai vu des choses encourageantes pour Leila. Je n'ai pas aimé son tournoi à Cleveland. On en avait parlé un peu. Mais quand même, j'ai bon espoir qu'elle va continuer de revenir au classement, de remonter tranquillement vers le top 50, top 40, qui va lui donner des premiers tours plus faciles. Et Leila, encore une fois, je le répète, pour son caractère, sa capacité à se bagarrer, malgré son petit gabarit, c'est une fille qui va trouver des solutions. Et je m'attends que Leila remonte aussi au classement. Donc, je ne suis pas tant déçu que ça. C'est pas tant de surprise que ça d'avoir sorti, mais elle le fait d'une manière, comme disait Nico, à la Leila. Donc, c'était un match intéressant avec des très beaux moments. Donc, à suivre pour Leila pour la fin de la saison. Puis, elle est capable de nous sortir des sets où elle gagne 6-1 ou 6-0. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire en Billie Jean King Cup en fin de saison parce qu'elle peut nous étonner à l'occasion, Leila Fernandez.
Et Nico, pour ajouter à ce que tu disais, il ne faut pas oublier, tu disais, bon, c'est rendu au quart de finale, mais son tournoi n'est pas terminé encore. Elle pourrait même affronter Gabriella Dabrowski et sa partenaire, Erin Routliffe, qui a un drapeau néo-zélandais là, à côté d'elle, mais Erin Routliffe, c'est une Canadienne. C'est une fille qui a fait partie du Centre national de tennis Canada. Là, à l'époque, c'est une bonne amie, Carole Jao également, qui a passé par les collèges américains. Alors, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait avoir trois Canadiennes là, dans ce match-là s'il fallait que Gabriella Dabrowski remporte son match. Et qui sait, ça voudrait dire qu'on aura au moins une Canadienne en demi-finale du côté du double féminin. Et ça, déjà, en partant, ça nous fera un élément intéressant à discuter dans le prochain épisode là, la semaine prochaine. Alors, ça va être bien intéressant. Intéressant. Rebecca Marino, pour terminer sur les performances canadiennes, c'est quand même une bonne performance contre Patricia Mariatic. Je pense qu'elle aurait pu définitivement la battre, mais c'est quand même, elle s'incline en 2-7 contre la Roumaine. Encore une fois, c'était à prévoir, Hugues. C'est un peu copier-coller là, en termes d'analyse là, pour les quatre joueurs.
Oui. Pour Rebecca, c'est encore une fois, tout ce qu'elle prend en ce moment, c'est du bonus au niveau de sa carrière. Moi aussi, contre Tig, qui est une 700e mondiale, qui fait un retour en ce moment. Là, je ne pense pas que c'est un classement qui reflète son niveau réel. Bon match de Rebecca, mais j'ai l'impression, une fois que l'approche de Rebecca a évolué depuis quelques mois, je la sens beaucoup plus cool, beaucoup plus relaxe, beaucoup plus sereine. Il y aura des victoires, il y aura des défaites, mais qu'elle puisse faire des tableaux de grand chelem directement, sans qualification. Que c'est autour de la 100e place mondiale. Pour moi, c'est une réussite pour Rebecca Marino. Puis, souhaitons qu'on la voit encore un petit bout de temps là, sur les circuits professionnels.
Oui, on le sait, on le dit, on va le prendre autant de fois, autant qu'elle le voudra. Rebecca Marino, elle a une belle histoire et le simple fait qu'elle ait les deux pieds sur un terrain de tennis professionnel dans un premier tour de tournoi majeur, c'est quand même pas banal. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou ça complète?
Ça complète pas mal. J'ai pas vu le match, mais comme Hugues disait, score serré, puis le fait qu'elle soit simplement qualifiée d'ores et déjà, c'est déjà elle est rendue là, je pense, dans sa carrière, puis c'est chouette.
Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va continuer notre analyse de ce qui s'est passé dans cette première semaine d'activité au US Open. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées au-delà des performances canadiennes et c'est ce qu'on va regarder.
L'hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, Alex Régimbal en votre compagnie. Hugues Léger et Nicolas Richard sont à mes côtés. Messieurs, bon, on a parlé des performances canadiennes dans le premier bloc de l'émission. Dans le deuxième, on va regarder les autres histoires de ce tournoi-là. Peut-être commencer avec ce qui aura marqué les derniers 24 heures avec Sabalenka qui deviendra numéro un mondial parce que la numéro un mondiale, Swiatek, elle a perdu contre Ostapenko. D'ailleurs, Ostapenko commence à être une bête noire, là, Hugues, pour Swiatek.
Quatrième victoire de suite de Ostapenko contre Swiatek, c'est quand même pas banal. C'est la seule joueuse qui a accompli ça. Ostapenko, on a souvent parlé cette année, qui dans tout tableau peut provoquer des choses qui ne sont plus des surprises maintenant. C'est une fille qui peut battre à peu près n'importe qui. Mais oui, cette défaite de Swiatek à ronde des 16 fait qu'on a une nouvelle numéro 1 mondiale qui est en Irina Sabalenka. Je pense que ça fait plaisir de voir Sabalenka qui se retrouve là, qui revient, qui a vraiment progressé beaucoup depuis un an. Moi, je pense que c'est une fille qui est très bonne pour le tennis en général. Elle est très émotive sur le terrain. Elle partage ses émotions avec la foule et la foule lui rend bien. La foule aime ça. Donc, très heureux de voir Sabalenka au numéro 1. Swiatek, c'est une erreur de parcours. Hein. On sait qu'elle reste quand même la reine des bagels et des frites. Là. Combien de sets gagnés à 6-0, c'est ça. Mais force est d'admettre que Ostapenko peut faire du dommage. Et j'ai bien hâte de voir le match entre Coco Gauff, qu'on a plusieurs d'entre nous comme favorites, et Ostapenko. Est-ce que Ostapenko pourra déranger Coco Gauff?
Moi, la bonne nouvelle dans ce scénario-là, c'est que Swiatek part juste un tour plus tôt que ce que j'avais prévu, parce que je l'avais prévu contre Coco Gauff. Et moi, j'ai Coco Gauff championne du tournoi. Alors, et c'est ton cas aussi, Hugues, si je ne me trompe pas. Alors, ça ne scrapera pas trop mes prédictions, comme on dit. Nico, quand même, Sabalenka connaît toute une saison. Et franchement, de l'avoir au numéro 1 mondial, à la place de numéro 1 mondial, c'est quand même bien mérité. Et qui sait, peut-être bien qu'elle va remporter tout le monde. Moi, je l'ai en finale, là, Sabalenka.
C'est pas la première fois que je le dis sur le podcast puis que je l'écris dans la presse. Les gars, pour moi, Sabalenka, c'est elle la joueuse la plus complète du tennis féminin présentement. Elle se l'est depuis un an environ. Puis on dira ce qu'on voudra, les gars. Autant Iga Swiatek a été exceptionnelle sur le terrain, en termes de charisme et de présence, je ne pense pas qu'elle avait l'étoffe d'être numéro un mondial. Maintenant, Arina Sabalenka, Alex, tu l'as dit, elle est bonne dans tous les domaines. Les gens l'aiment. Elle est féroce sur le terrain, mais tendre à l'extérieur. Elle est drôle. Ouais. C'est pour moi, elle représente ce qu'est et ce que devrait être une numéro un mondial. Je ne sais pas combien de temps elle va le rester. Ça demeure qu'elle est dans cette position-là pour la première fois de sa carrière, première fois de sa vie. Mais je pense qu'elle est là pour rester, même si le Big Three commence à se former, peut-être même un Top 4 ou un Big 5, dépendant si Pegula et Coco Gauff entrent dans la danse au cours des prochains mois. Mais Sabalenka est dans la position dans laquelle elle doit être. Je suis tellement ravi pour elle. Qui, Hugues l'a dit, a surmonté plusieurs épreuves, qui s'est transformée aussi au cours des derniers mois pour parvenir à atteindre ce rang-là, parce qu'on ne devient pas numéro un mondial par hasard. Mais je suis tellement content pour Sabalenka qui, enfin, le respect qui lui revient. On l'a respecté énormément, puis on savait à quel point elle était bonne, mais en tant que numéro mondial, personne ne pourra l'enlever, puis je pense qu'elle sera là pour un bon bout de temps.
Et il ne faut pas oublier que, elle a une saison dans un contexte où il y a encore un conflit en Russie, les Biélorusses. Il y a tout ce conflit-là qui pend au-dessus de sa tête comme une espèce d'épée de Damoclès aussi, que quand même que tu ne veux pas en parler, quand même que toi, tu n'as rien à voir avec tout ça. Elle a des questions qui reviennent tournoi après tournoi après tournoi sur cette question-là. Alors, le fait qu'elle puisse continuer de performer sur le terrain et qu'elle connaisse possiblement la meilleure saison de sa vie, et comme comme tu dis, Nico, ben, c'est une fille aussi qui a beaucoup de charisme. Là. Elle est très loin des Russes traditionnellement froids. Là. Écoute, elle est vraiment, vraiment, vraiment sympathique, Sabalenka, et bien hâte de voir si elle terminera à la première place mondiale. Et c'est pas peu dire là, qu'elle prenne la première place après la saison que Świątek a connue l'année passée. Oui. Bon, évidemment, elle avait beaucoup de points à défendre, mais il reste que Świątek n'est pas aussi dominante qu'elle l'a été l'année passée.
Donc, et Alex, tu me permets, ouais, rapidement, là, tu parlais de Sabalenka, puis je trouve ça intéressant, le truc russe-Ukraine. Je pense qu'elle a mérité et elle a augmenté la sympathie de beaucoup de gens lorsqu'à Wimbledon, elle a enfin parlé du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. C'est la première fois qu'elle en parlait aussi directement. Je pense que ça a réglé beaucoup de questions pour ses détracteurs. Je vous donne l'exemple. Là, depuis le début de la saison, je reçois beaucoup de courriels de lecteurs de la presse qui m'écrivent « Oui, Sabalenka, mais les Russes, mais le conflit. » Et depuis cette prise de parole, cette prise de position, j'en reçois beaucoup moins, voire pas du tout. Alors, je pense que dans l'esprit des gens, le fait qu'elle ait pris parole, qu'elle ait mis son pied à terre, a réglé beaucoup de choses pour une athlète qu'on pensait être comme les autres, mais ultimement, de la façon dont elle s'est comportée, puis je ne veux pas faire de mauvais parallèles, les gars, mais on parle beaucoup de Nadal, Federer comme de grands ambassadeurs, ben Sabalenka, peut-être qu'elle a mis beaucoup de gens de son côté là, en parlant ici là, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Oh, ouais, et honnêtement, tu sais, rien d'enlevé à Federer et à Nadal, mais ils n'ont jamais eu une situation problématique à vivre de ce genre-là. T'sais, peut-être Novak Djokovic avec sa gestion de la pandémie, mais bon, lui, c'était pas la même chose, c'était à titre personnel et c'était pas indépendant de sa personne, ce qui est le cas de Sabalenka. Alors, c'est assez spectaculaire, on va la suivre, Sabalenka, elle est toujours dans le tournoi et elle pourrait très bien remporter ce tournoi-là. Aryna Sabalenka, elle est la championne en Australie, elle connaît toute une saison. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner là, pour acheter peut-être un quatrième titre, Sabalenka. Bon,
prochain match 100% russe contre Kazatkina, intéressant aussi.
Oui, ça va être intéressant parce que Kazatkina, elle retourne vraiment beaucoup de balles. Ce n'est pas une fille qui génère beaucoup de puissance, mais elle gère bien la puissance des autres. C'est vraiment une fille fatigante à jouer, Kazatkina. Là. Et ça en est une autre. On en parlait à Ordonne. Elle a fait la blague cette semaine. Elle veut jouer, comme elle ne peut pas jouer sous le drapeau russe, elle aimerait jouer sous le drapeau gay, le drapeau arc-en-ciel. Et honnêtement, ça prend un méchant courage pour une Russe d'aller dire ça comme ça quand on connaît le contexte politique en Russie. Et nous, on l'a déjà eu au podcast Kazatkina l'année passée quand elle est passée à Grenby et elle a gagné ce tournoi-là d'ailleurs. Et Colin, qu'on l'a trouvé sympathique, Kazatkina, c'est vraiment, c'est pas une fille très, très, très volubile, mais elle est vraiment, vraiment incroyable. Elle est vraiment gentille.
Ouais.
Bon, je vais faire un petit message sur Peyton Stearns parce que les Américains connaissent tout un tournoi. Peyton Stearns, là, je veux vous en parler parce qu'elle a joué contre des Canadiens à l'Omnium Banque Nationale l'année passée, il y a quelques semaines. Elle avait dû se qualifier, elle avait battu Sebov et elle avait perdu contre Leila Fernandez, mais elle s'est quand même rendue en ronde des 16. Elle ne devrait pas passer Vondrousova en dépit du fait qu'elle a gagné le premier set au moment où on enregistre l'émission. Là, elle perd 5-2 au set ultime. Mais je voulais quand même souligner sa performance et ça me permet, Hugues, de faire un commentaire général sur les performances américaines dans ce tournoi-là parce que les Américains ont vraiment pris d'assaut leur tournoi national.
Et le dernier Américain côté masculin à avoir gagné, c'est Andy Roddick en 2003. Ça fait 20 ans. C'est incroyable du côté masculin qu'on puisse voir une période de sécheresse si longue, mais de voir comment Ben Shelton fait un très beau tournoi, Fritz Tiafoe, donc 4 hommes en ronde des 16, 4 femmes en ronde des 16. Visiblement, il y a une rédemption du côté américain en ce moment. On parle beaucoup au podcast de la résurgence du tennis américain, mais elle se vit en ce moment au US Open. Et pourquoi pas un gars qui va se rendre jusqu'encore ou en demi-finale? C'est une belle performance des Américains à Flushing Meadows cette année.
Ouais, Nico, est-ce que tu voulais ajouter sur la performance des Américains? Moi, j'avais Frances Tiafoe peut-être comme Dark Horse pour remporter ce tournoi-là. On pourrait très bien voir des Américains très, très, très loin dans ce tournoi-là, même si on s'attend possiblement au moment où on se parle quand même à une finale Djokovic-Alcaraz. En dépit de ce que certains peuvent penser que c'est plate de penser comme ça, mais j'ai l'impression que ça va être le scénario qu'on va voir.
Mais j'ai envie de te parler simplement de Ben Shelton.
Ben Shelton,
quel joueur exceptionnel. Je l'ai vu jouer à
quel service
contre. Ben oui, mais au-delà de ça, je l'ai vu jouer contre Carlos Alcaraz à Toronto, et Alcaraz, qui est possiblement le joueur le plus puissant au monde, nous avait dit c'est le gars le plus menaçant et le plus puissant contre qui j'ai joué jusqu'à présent. Et venant l'Alcaraz, c'est pas peu dire. On a vu avec, j'ai envie de dire, le swag qu'il a sur un terrain de tennis, a battu Tommy Paul en 4 manches. Tommy Paul avait été excellent à Toronto. Et Shelton, il est puissant, un bon ami de Gabriel Diallo, chouette en passant. Il représente le futur du tennis américain, sera à la Coupe Laver dans quelques jours. Il est vraiment très, très beau. Et ce duel-là contre Tiafoe, j'ai envie de le donner déjà à Ben Shelton. Et ce qui est assez hallucinant de Shelton, c'est qu'il a fait les quarts de finale en Australie, n'a jamais remporté 2 matchs consécutifs ensuite pendant 18 tournois, et là, atteint les quarts de finale au US exact. Open. Donc, c'est un gars qui est fait pour les grandes occasions. Les Américains l'aiment, et nous aussi.
Ouais, ben écoutez, j'ai hâte de voir, bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté américain, mais ça fait un bout là, qu'on n'a pas vu un Américain remporter ce tournoi-là. Ça date de Andy Roddick, qui, je dois l'avouer, est à ce jour, reste un de mes joueurs préférés de tennis. J'étais vraiment un grand, grand fan d'Andy Roddick. Ben, je le suis encore un grand fan d'Andy Roddick. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son commentaire cette semaine à l'effet que certains pensent qu'il pourrait gagner un set, des joueurs occasionnels pourraient gagner un set contre un joueur professionnel. Et Andy Roddick a répondu à ça, un peu fâché. Si j'avais eu cette confiance-là, j'aurais remporté 17 grands chelems. Il dit même moi, je ne serais pas capable de gagner un jeu contre un gars comme Novak Djokovic. Alors imaginez un joueur occasionnel. Il dit, je pourrais jouer dans un circuit de ligue puis ne pas perdre pendant 15 ans. Un set. C'est ça qu'il a dit.
Tu as toujours des très bons commentaires, Roddick. Toujours intéressant.
Il est incroyable. Ouais. Il est dans la lignée des John McEnroe. Il n'a pas la langue dans sa poche. Et honnêtement, je suis toujours bien content de l'entendre. Quelques petits trucs avant qu'on aille faire un tour d'horizon de New York d'un point de vue touristique. Je veux qu'on parle de Caroline Wozniacki. Bon, là, elle annonce un retour en grande pompe. Elle performe quand même bien, mais Hugues, après sa défaite au US Open, bon, elle nous a annoncé que sa saison était terminée, elle va se préparer pour la prochaine saison.
Oui, mais je pense qu'elle a validé le fait qu'elle peut rejouer au plus haut niveau. Elle a pris un set quand même à Coco Gauff là, en ronde des 16. Elle gagne le deuxième set 6-3, s'incline finalement 6-1 au troisième, mais son retour qui s'est amorcé à Montréal en a surpris plus d'un, je crois, après un arrêt de 3 ans, 2 enfants maintenant. Mais elle a validé le fait qu'elle peut revenir au plus haut niveau. Donc là, elle prend une pause, elle se prépare pour l'Australie. Et je pense qu'on va voir une fille revenir à temps plein sur le circuit en 2024 et c'est un bonheur de voir Sunshine Caro Wozniacki est de retour.
Ouais, elle a battu dans ce tournoi-là quand même Vitova, qui connaît une bonne saison. Amen. Vitova, là, elle n'est pas loin du top 10 mondial. Elle a remporté Miami et Berlin cette année. Alors, ça en dit long sur son niveau de jeu à Caroline Wozniacki. Certains diront que ça en dit long encore plus sur le niveau de jeu général sur la WTA quand une fille qui part 2 ans et qui est capable, qui part plus longtemps que ça et qui revient et qui rivalise avec les meilleures joueuses au monde. Mais il reste que c'est un talent exceptionnel, Wozniacki. Commentaire rapide, Nico, sur Wozniacki?
Oui, bien, en même temps, j'ajouterais au fait que certains disent que ça rend peut-être pas justice au circuit actuel. Il faut dire, bon, premier match, je pense qu'il y avait l'engouement, puis Wozniacki a bien géré ce match-là, premier match. Ensuite, Kvitova, oui, elle a gagné. Mais elle demeure une vétérane. Là, je vous dis, ces deux filles-là sont affrontées maintes et maintes fois entre 2012 et 2014 également. Ensuite, Jennifer Brady, qui est aussi en plein retour, et contre Coco Gauff, elle s'est inclinée. Donc oui, je pense que Wozniacki a très, très bien fait, mais c'était aussi des duels qui étaient pas prenables, mais qui adonnaient bien là, pour Wozniacki, même si j'enlève rien de ce qu'elle a fait. Mais c'est un tableau qui était quand même assez pas prenable, mais favorable pour Wozniacki.
Intéressant. Bon, messieurs, comme c'est une tradition, à chaque fois qu'on va faire une grande destination, ben on accueille notre spécialiste voyage, Mylène Matteau, qui est la propriétaire d'Accès Croisière et Voyage. Je le rappelle, si vous voulez réserver des voyages un peu partout, vous pouvez faire appel à ses services. Mylène, tu es venue nous parler de plein de destinations. Tu es venue faire ton tour même à l'Omnium Banque Nationale il y a quelques semaines pour nous parler de notre ville à Montréal. Et puis là, ben évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence le fait que tu allais nous parler de New York. Et nous, on veut savoir si on est un joueur, Mylène, et que, bon, on veut faire des activités au-delà de ce qui se passe sur le terrain de tennis. Alors, on ferait quoi selon toi? On commencerait par où?
Ben, en fait, on reste où ce qu'on est. Comme je pourrais dire, le parc où l'Omnium a lieu présentement est vraiment, mais vraiment, premièrement, le quatrième plus grand parc à New York, avant même Central Park. Mm. Il est immense.
Attends, Flushing Meadows est plus gros que
Central Park? On parle de Corona Park. Là.
Ah, Corona Park.
Tout à fait. Oui, Flushing Meadows avec Corona Park. Tout l'ensemble, en fait, là, de ce parc-là qui relie les deux quartiers, d'où son nom, est vraiment, mais vraiment un immense parc où on peut faire une multitude de choses là, au sein même. Et il faut dire que c'est un parc où la communauté est vraiment très présente aussi. Mais sachez qu'il y a 9 millions de personnes environ qui visitent ce parc par année.
Ah ouais, hein? Et c'est drôle parce qu'on parlait des odeurs de cannabis. Il semble-t-il que c'est le Corona Park serait le grand responsable des odeurs de cannabis qu'on retrouvait sur le terrain. Mais ah oui, ben écoutez, je savais pas ça, Minan, que c'était si gros que ça, ce parc-là. Et je dois avouer que tu sais, le site en quoi de Flushing Meadows, c'est absolument incroyable. Bon, tu parlais d'un peu les sports qu'on peut faire. Là. Si, mettons, quelqu'un veut se dégourdir en dehors de jouer au tennis, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sport autour de
Fashion Week? En fait, tous les sports sont présents. Il y a une patinoire intérieure, il y a un parc aquatique intérieur, on a un terrain de golf, des terrains de basket, un terrain de football, il y a le soccer, il y a le volleyball qu'on peut pratiquer, il y a même une marina au sein même du parc avec des espaces pour kayak et tout. On peut même pêcher. Fait que vraiment, toutes les activités là, sont possibles dans ce parc-là. Comme je disais, c'est un parc très, très communautaire. Fait que quotidiennement, il y a des 5 km de courses qui sont organisées pour la communauté, des rassemblements.
Quotidiennement?
Oui, au quotidien. Wow. Du Zumba, des choses comme ça, comme je vous disais, très, très communautaire, là, où il y a des activités d'organiser à tous les jours là, pour rassembler la communauté.
Intéressant. Et s'il y en a qui ont un penchant plus culturel, plus peut-être moins sport, il y en a pour vous aussi. Là.
Aussi, le parc contient deux musées, le Queen's Museum et le Hall of Science. Alors, deux musées super intéressants qu'on peut faire environ en une demi-journée. Et il y a même un théâtre aussi au sein même du parc.
Ah, mais ça, c'est intéressant. Honnêtement, moi non plus, je ne savais même pas que tu pouvais faire autant de trucs sur le côté. Puis c'est tellement beau, ce site-là, je le rappelle. Puis bon, un petit côté nature du côté du Corona Park aussi?
Bien, il y a un zoo. Alors, on a un centre de conservation de la nature qui est sur place et il y a un jardin botanique. Et bien, en fait, le parc est tellement immense qu'il y a plein de randonnées pédestres là, qu'on peut faire au sein même du parc pour se déplacer entre les différents endroits. Mais vraiment, je vous le dis, c'est une découverte pour moi aussi, Alex. Vraiment un parc très, très complet à visiter.
Et là, bon, tu remarques, tu vois, Nico porte son tank top des Nordiques, si on veut. Il a l'air d'un gars prêt à aller à la plage. Bien, il pourrait y aller dans le coin de Flushing Meadows.
Eh oui, en fait, je me suis dit, bon, ben s'il y a des gens, l'US Open est quand même sur quelques jours. Alors, si ils ont malheureusement perdu en début de parcours, on peut se rendre à la Rockaway Beach. C'est une des plus grandes plages de New York. Le Bald Rock est magnifique. Et on va retrouver vraiment des très bonnes tables aussi à cet endroit-là.
Ben là, ça, je pense que ça ferait plaisir à Hugues, là, des bonnes petites tables. Il aime ça, Mylène. Et peut-être rapidement, bon, tu me laissais aussi peut-être un peu d'histoire sur le parc, là, si tu veux nous faire un petit historique.
Ben en fait, ce parc-là a été créé à la suite de l'exposition universelle de 1939-1940. Alors, au départ, là, vraiment, c'est l'exposition universelle qui est venue s'installer dans ces années-là. Et par la suite, le gouverneur qui est en place en a fait le parc qu'on connaît aujourd'hui. Et bien sûr, ça s'est développé avec les années. Et il y a une deuxième fois, il y a eu une autre exposition en 64-65. Alors, c'est vraiment un endroit historique là, pour le secteur de Queens.
Ah, c'est intéressant, ça. Et est-ce que tu sais si, là, je m'avance, là, mais est-ce que tu sais si l'espèce de sphère, là, la planète, ça date de l'expo de l'époque ou est-ce que c'est
non, à l'entrée du parc? Non, c'était fait par après, mais ça reste un des points centraux du parc. Là, quand on regarde là, les choses à ne pas manquer, aller prendre une photo avec ce fameux globe terrestre là, est vraiment un highlight là, au niveau du parc.
Bon, mais on peut pas prendre Mylène Flatfoot, elle est au courant de tout, comme on dit. Hey, merci Mylène, tu as vraiment été incroyable. Je suis vraiment surpris. Là. Je suis allé deux fois au US Open, je suis allé aller faire un tour dans Corona Park. Il faudrait vraiment que j'aille. J'ai pris une photo sur le bord de la sphère, mais c'est pour l'essentiel, c'est ça.
Ouais, faut vraiment le faire. Comme je dis, j'aurais eu le goût de vous emmener à l'extérieur du parc, mais il y avait beaucoup trop de choses à faire au sein même du parc. Là, pour.
Ce sera pour le prochain US Open, Mylène, tu nous amèneras à l'extérieur du parc dans un an. Avant que je te laisse aller, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, faire appel à tes services et peut-être nous rappeler ton offre de services?
Ben, en fait, par le site web, les réseaux sociaux, alors www.acev.ca. Et sur Facebook, sous Accès Croisière et Voyage.
Bien, Mylène Matteau, merci infiniment, une fois de plus, d'être venue nous parler de ces destinations touristiques. Il en reste quelques-unes là, d'ici la fin de l'année. On se reprendra. Il y a quand même des destinations intéressantes là, en Asie et en Europe d'ici la fin de l'année. Alors, on va te garder dans notre poche pas loin. Et ben, sur ça, messieurs, on va faire une courte pause. Et au retour, on va continuer de parler de tennis parce qu'il y avait les internationaux de tennis junior à Repentigny ce week-end.
L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Profitez d'un rabais de 30% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
J'en parlais avant la pause. Il n'y a pas que le US Open, c'est une tradition. Les internationaux de tennis junior de Repentigny sur la ligne, en l'occurrence moi, est allé faire un tour ce week-end. J'aime toujours ça, aller voir les espoirs du tennis mondial.
Le cinquième Grand Chelem. Après les quatre Grand Chelem du côté junior, c'est le plus grand tournoi au monde.
C'est un tournoi de très haut niveau. Il est bizarrement placé dans le calendrier parce qu'il est tout juste avant les internationaux des États-Unis au point de vue junior. Alors, ça, c'est un petit peu dommage, mais de façon générale, on a d'excellents calibres et ça a été encore le cas cette année. Et honnêtement, là, Nico, je ne sais pas si tu es déjà allé faire un tour à Repentigny, mais honnêtement, ça vaut la peine. Le tennis est incroyable.
Un très beau parc, le parc La Rochelle, qui est bien situé. Ouais. Hugues-Lecé, c'est quand même sa cité, Repentigny, mais qui est un super parc bien situé près de l'autoroute. Des beaux éclairages également. Non, c'est un bel endroit pour tenir ce genre de tournoi, je trouve.
Mais eux, très beau central.
Vous en parler plus de bon.
Très, 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 très beau central. Ouais. Moi je me suis développé sur les terrains du parc La Rochelle. C'est une ville de tennis au fil des années. Repentigny, je le répète souvent, mais des gars comme Sylvain Bruno, des filles comme Marie-Ève Pelletier, Jocelyn Robichaud du Centre national ici, se sont tous développés à Repentigny. Donc, c'est une ville qui mérite son label de grande ville de tennis. Et d'avoir un beau tournoi comme ça, il le mérite.
Oui, c'est gratuit hein, pour l'essentiel des places. Là, c'est ouvert à tout le public. C'est vraiment, vraiment intéressant et on l'a dit plein de fois, la quantité de joueurs qui a passé par là, je vais vous en nommer juste quelques-uns, là, mais Daniil Medvedev, Iga Świątek, Joe Wilfried Tsonga et il y en a beaucoup d'autres là, qui ont passé par là. J'y vais simplement de mémoire, mais vous pouvez aller voir sur le site et ils ont une grande partie des bons joueurs des générations qui sont là ont passé par là. Évidemment, tous les Canadiens y ont passé. Là, vous n'avez même pas besoin de les nommer. C'est du côté féminin, c'est Meaning Zhu qui a remporté le tournoi. C'était la première tête de série, la Britannique. Et d'ailleurs, c'était deux Britanniques en finale, elle et Anna Klugman. Elles étaient également partenaires de double et elles ont remporté le double ensemble. Et messieurs, je vérifiais, la dernière fois que deux finalistes se sont affrontées en finale et qu'elles ont gagné ensemble le double, c'était Barbora Krejčíková et et Katarina Siniakova. Messieurs, alors, ça en vous dit long sur le fait que, ben écoutez, Krejcikova et Siniakova, ce sont deux excellentes joueuses de double, mais ils jouent ensemble depuis les juniors. Mm. Et ça, ben, des fois, vous pouvez vous dire, ah, je les connais pas, les Tchèques, ça me dit rien. Et là, pas 10 ans après, c'est la meilleure équipe de double au monde ou une des meilleures équipes de double au monde et Krejcikova a remporté Roland-Garros. Alors, ça vous donne une idée du genre de joueur que vous pouvez voir. Alors, Minixu, elle a remporté ce tournoi-là, la Britannique, contre sa partenaire de double et meilleure amie, Anna Klugman. Et honnêtement, Anna Klugman, elle a 14 ans. Finaliste d'un tournoi 14-18. Elle m'a impressionné, messieurs. Ah ouais. Je vais vous dire, là, retenez ce nom-là. On va reparler dans quelques années. Peut-être d'ici 2-3 ans, là, Anna Klugman, ça va être une fille qu'on va parler. Elle a beaucoup, beaucoup d'armes. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus imposante, mais elle est encore toute jeune. Et je vous propose d'écouter les deux filles après la finale.
Guys, one, and I don't know if you know that, but you're the first to do it, same country and double pair. To win it and get into the final since Krejcikova and Siniakova here. So, pretty good. So, how does it feel being doubles champions first?
It feels amazing. Like, playing with Hannah, it's always so much fun. We played with each other at Summer Cup and a few times before. We haven't actually lost a match yet, touch wood. Undefeated. So, yeah. And obviously, Krejcikova and Siniakova, look at them now. Hopefully, that'll be us someday.
How does it feel being double champion first?
Yeah, you know, it's just, I think doubles is a really fun thing. And also, especially with Mimi, you know, we have a lot of fun out there. But yeah, we play such good doubles together, and I'm really happy to get the my first ever J1 doubles win, so yeah.
And how does it feel being a champion, single champion here?
It feels amazing. Like, I haven't won a singles tournament in a good few years, so to be here in Canada with these amazing like people, amazing atmosphere, it's so nice.
Does it make it bittersweet that you beat a friend?
Yeah, of course. But like, we spend so much time together, we almost get sick of each other. But yeah, you know, it's always so much love there. I love Hannah so much. So.
Hannah, what made the difference today, you think?
Yeah, you know, it was tough playing a friend. Yeah, you know, Mimi played much better than me today, and she really deserved it. It was a really good match. Yeah, so overall, it's been a good week for me. Sad I can't get the win, but yeah, it's been a good week, yeah.
Congratulations, thank you for coming and good luck in the US Open.
Thank you so much.
Alors, les deux filles qui étaient quand même contentes. Bon, Anna Klugman avait le sourire là, après la rencontre, mais je peux vous dire qu'elle était particulièrement déçue. Elle avait remporté le premier set et elle jouait très bien. Elle a eu de la misère à closer, comme on dit, la première manche. Et on dirait qu'à partir de là, les choses se sont écroulées pour elle et sa meilleure amie a pris les devants. Je leur ai demandé, bon, à quel point ils étaient contents d'avoir remporté le double et je leur ai fait part de la statistique sur Siniakova et Krejcikova. Alors, elles étaient bien contentes de ça. Évidemment, Mimi Xu, elle a dit que c'était un peu... bon, c'est une victoire un peu amère quand même quand tu bats ta meilleure amie. T'as des émotions un peu mélangées. Et de son côté, ben, Anna, elle a confirmé que c'est pas nécessairement évident de perdre une finale, mais que Mimi le méritait. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour ces deux joueuses-là. Elles m'ont impressionné particulièrement, la jeune Anna Klugman. Il faut dire que Mimi, elle est pas tant plus vieille, là, elle a 15 ans, mais quand même, quand tu remportes un tournoi à 14 ans qui est parmi les plus gros tournois juniors au monde et que tu peux jouer jusqu'à 18, ça en dit long, à mon sens, sur ton potentiel. Je vous disais que les deux filles ont remporté le double ensemble. Ben, du côté des hommes, Joel Schwartzler a lui aussi remporté le tournoi du côté du double avant de remporter le simple. Et je l'ai vu jouer. Lui, honnêtement, là, lui aussi, je pense qu'il va faire quelques vagues. Là, on va le retenir. C'est un Autrichien, Joel Schwartzler. Il travaille avec Jürgen Melzer depuis un an. Là. Alors, Jürgen Melzer, c'est quand même un ancien top 10 mondial. Alors, d'avoir un gars comme ça dans ta course, je pense que ça ne peut pas nuire. Et je veux juste faire une parenthèse là, pendant que j'y pense sur Mimi Xu parce qu'elle m'a dit que son idole, ben, c'était Bianca Andreescu. Alors, un peu plus tôt dans le tournoi. Alors, pas gênant d'avoir un idole comme Bianca Andreescu. Je vous propose d'écouter le champion de Repentigny en simple et en double, Joel Schwartzler.
Joel, after winning the double title yesterday, how does it feel to be now the single champion in Repentigny?
Obviously, it feels really, really good. I'm really happy about my level that I played today. Charlie was giving me a hard time. The conditions were tough, it was really windy, but the stadium was packed. It was really fun to play here and yeah, really happy to win singles and doubles.
Yeah, what does it mean to you to be champion in that kind of tournament here?
of course, much, especially the week before New York, a big tournament, the Grand Slam. I'm feeling confident, I'm feeling good, especially now on hard court, and ready for next week.
Yeah, I've seen that people here in Quebec are tennis fans. Obviously, there was a lot of people in this. And were you surprised by how many people there was all week long?
Yeah, I mean, so many people were watching for a junior event. Like I said yesterday, it felt like I'm on a challenger. Really many people watching here. Really nice fans, fair fans, and it was really nice to play in front of that crowd.
I think you got some new fan here in Quebec for sure. When you're going to come back, you're going to have your own crowd. That is my guess. Joel, congratulations and good luck in New York.
Thank you very much. Thank you.
Alors, Joel Schwartzler, qui était évidemment bien content de remporter ce tournoi-là, il a eu des fans dans ce tournoi-là. Il avait un groupe de 6-7 partisans là, qui criaient très fort son nom, autant en demi-finale qu'en finale. Ils sont revenus pour la finale et il l'a encouragé. Il a déjà sa base de partisans au Canada, lui, Joel Schwartzler. 17 ans, déjà une bonne carrure de tennis. Il a l'air d'un joueur de tennis sur le terrain. Alors, non, à surveiller dans quelques années ce jeune homme autrichien, je le rappelle, il travaille avec Schwartzler. Et d'ailleurs, il a mentionné à quel point le tournoi de Repentigny, c'était comme jouer un tournoi professionnel. Et honnêtement, c'est le commentaire de tous les joueurs. Et moi, comme journaliste, je peux vous dire, le travail des communications fait un excellent travail. C'est très, très, très bien organisé. C'est vraiment, vraiment un tournoi intéressant. Et j'encourage à chaque année les gens à aller le voir. Et à chaque année, je ne suis pas déçu. Alors, ben voilà, c'était notre petit tour d'horizon cette semaine pour ce qui s'est passé à Repentigny. Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je trouve ça très bien. Puis je suis content encore une fois que les joueurs reconnaissent que c'est tout à fait exceptionnel pour un tournoi junior d'avoir des gradins remplis à capacité année après année à Repentigny. C'est vraiment tout un témoignage là, pour les organisateurs du tournoi.
Ben, pour la finale, je peux vous garantir qu'il y avait beaucoup de monde dans les gradins. C'était samedi, il faisait beau et je sais que l'organisation a eu à composer avec la pluie, tout comme ça a été le cas à l'Omnium Banque Nationale et on a fini dans les temps. Par contre, je veux vous dire que les deux filles m'ont donné une entrevue très rapide parce que on a fait une entrevue qui devait être à peu près 3h15 et leur vol pour New York est à 6h. disons qu'il a fallu faire ça rapidement, mais ils ont été bien gentils de quand même accepter de nous parler et c'est toujours le fun de les rencontrer alors qu'ils sont juniors. Qui sait, peut-être qu'on les reverra à l'Omnium Banque Nationale plutôt que plus tard. C'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Avant de vous laisser rapidement, prédiction gagnant d'ici la semaine prochaine, Hugues, homme-femme.
Beaucoup de beau tennis à jouer à New York, deuxième semaine du US Open. J'espère des finales Coco Gauff-Sabalenka du côté féminin. Je garde Coco Gauff comme gagnante. C'est une année d'éclosion pour elle avec son nouveau coach Brad Gilbert. On souhaite tous une finale Alcaraz-Djokovic du côté masculin et je mise sur Novak Djokovic cette fois-ci.
Intéressant. Nico?
Même chose que Gauff-Djokovic, je conserve mes choix.
Ben, je vais aller avec Gauff parce que c'était mon premier choix également. En plus, elle n'aura pas Swiatek dans les pattes. Mais je conserve Carlos Alcaraz parce qu'ils ont alterné chacune des victoires entre Novak et Carlos Alcaraz. Ici, le passé est garant de l'avenir. Messieurs, Carlos Alcaraz va soulever le trophée contre Novak Djokovic en finale. Et sur ce, Nicolas Richard, je te donne ta lourde tâche de terminer, comme c'est la tradition chaque semaine, l'épisode.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.